est samedi, c'est le retour du CQFR, le dernier de la semaine, le sixième, celui où on répond à toutes vos questions. À mes côtés, il y a Shai qui est prêt à en découdre lors du quiz. Shai qui est sur 17 victoires consécutives lors des quiz.
Mais c'est parce que nos auditeurs me font des fleurs à chaque fois, tu vois. Je passe pour le gars
qui... Non, pas que, je pense. Une question de connaissance. Une question de connaissance. De talent. Il y a plus de talent d'un côté du CQFR que de l'autre. Et avec nous, on est rejoint évidemment par Théo. Théo qui est celui qui sélectionne les questions, qui encaisse l'échec quand vous envoyez de l'argent.
Si seulement.
Théo, on va te laisser la parole.
Ouais, bah, je suis ravi de vous retrouver. Et pour commencer, j'ai une question, je peux pas le cacher, de mon auditeur préféré du CQFR. Donc mon fils Timothée, 8 ans, a une question pour Shai Mamou et Antoine Pimel. Si vous deviez prendre votre retraite, par quel joueur voudriez-vous être remplacé ?
C'est une très belle question, ça. Alors, un joueur actuel, hein, je vais choisir...
Donc, remplacer, attends, juste que j'ai bien... Est-ce que j'ai bien compris la question ? Remplacer...
Genre, dans notre place, notre boulot.
Exactement.
Ouais.
Ah, d'accord. Un joueur actuel...
Un bon journaliste.
Ok.
J'en ai un qui m'est venu en tête déjà, mais... Il y a CJ McCollum, il a un diplôme de journaliste, mais c'est pas forcément lui que je vais choisir. J'ai envie de prendre un mec marrant, en fait. Non pas que je m'estime marrant, mais...
Ouais, mais un petit peu quand même. Moi, j'ai l'impression... Alors, pas aujourd'hui, parce que j'ai envie qu'il fasse de grandes choses et tout ça, mais j'aime bien la façon de réfléchir, le calme de Victor Wembanyama, quand même, quand il parle de basket. Alors, c'est très, très jeune, mais j'aime bien son esprit, sa façon de voir les choses. Il n'est pas dans le sensationnalisme, il répond bien aux questions sans être trop cliché. Je pense que ça fera un très très bon consultant, notamment.
Avec Nikola Vucevic, on a une passion commune pour l'Olympique Lyonnais, mais je ne sais pas.
Attends, et moi j'ai une passion commune avec lui pour Football Manager, donc ça peut être, tu vois, ça peut se rejoindre, tu vois. On peut laisser Vuc prendre notre place.
Qui ferait un bon journaliste ? Je suis en train de réfléchir, parce qu'évidemment, je pense au podcast. Ah, c'est pas simple.
Ça va te surprendre, mais je pense... Alors, ouais, parce qu'il y a journaliste et consultant.
Je suis en train de regarder la liste des équipes. Ouais, non, je suis vraiment en mode journaliste.
Ah, là,
je suis
dans une optique de...
Mais journaliste, mais tu sais, par exemple, pour les vidéos, Gigi Redick, par exemple, mais bon, parce qu'on sait que c'est un... Allez, je vais dire Tyrese Haliburton. Je vais te voler une réponse. Ouais. Je vais dire Tyrese Haliburton, parce que c'est vrai, je pense que Tyrese Haliburton...
On l'avait déjà cité, il est bien dans le rôle.
Ouais, il ferait un super podcast et je pense qu'il arriverait à la fois à être intéressant, drôle et à avoir bah, évidemment l'œil basket. Hein.
Pas mal, moi j'aurais choisi Javali McGee et Anthony Edwards pour vous remplacer tous les deux, mais c'est pas, j'aime bien vos réponses, sont cool. Et j'enchaîne, Chai, puisque tu parlais de Wembanyama, Nat qui nous pose une question. Si vous pouviez choisir un joueur sans prendre en compte le fait que ce soit réalisable ou non, si vous deviez choisir un joueur donc, pour jouer avec Wembanyama sur ces 5 prochaines années, qui choisiriez-vous ?
Moi, je voudrais un mec qui l'éclipse pas trop. Je voudrais un super sidekick. Je ne voudrais pas un mec pour une super team, un mec beaucoup trop fort, déjà trop fort, je pense. Donc, réfléchissons. Un super sidekick. Ouais. Mais je sais pas pourquoi j'ai bien aimé les interactions avec Trae Young, moi.
J'ai trop envie de répondre Tyrese Haliburton à nouveau, moi.
C'est vrai.
ça collait très parfait. Très bien aussi. Hein. C'était un truc sur lequel je militais pendant longtemps avant la draft. Ouais, faut qu'il aille aux Pacers.
C'est vrai, un mec vraiment pass first.
Son même génération, un peu plus vieux, mais pass first, capable de scorer, créateur. Il y aurait quelque chose.
J'avoue que j'aime bien parce que c'est vrai que quand on savait pas encore où il allait atterrir, on se disait Indiana avec Haliburton qui est vraiment qui cherche d'abord la passe, qui est pas en recherche totale de scoring. C'est quand même bien. Puis Haliburton, il a presque plus le profil de numéro 1 bis. Haliburton, c'est bien. En tout cas, moi je pense à un meneur quoi, un mec qui.
Kate Cunningham, c'est intéressant aussi, mais on l'a moins vu.
Ça m'arrive pas moins.
Ouais, j'aime bien moi l'idée de Tyrese Haliburton. C'est bien, j'ai répondu deux fois le même mec de suite à deux questions, mais je trouve que ça passe vraiment bien.
Et si tu le fais jouer, et juste pour le fun, pour l'exercice, si on fait jouer Victor 4 et Jokic 5, ça peut être sympa.
Ça peut être absolument incroyable. Et genre vraiment, hein, ça bah peut ouais. être... De toute façon, après, Doncic, ça s'applique aussi. Hein. Tu mets avec Doncic, alors là, c'est pas 4-5, j'aime bien ta raquette. Hein. Wembanyama, Jokic, c'est énorme. Mais t'imagines, Doncic, Wembanyama. à la NBA, c'est 10 ans de domination là.
Allez, j'enchaîne avec une autre question concernant les Spurs, une question de Joachim. Wembanyama a surpassé toutes les attentes concernant le concernant, pardon. Victor Wembanyama a surpassé toutes les attentes le concernant au point de mettre un terme au débat du Rookie of the Year, voire de titiller celui de DPOY. Est-il fou de penser qu'avec une bonne draft et l'arrivée d'un meneur correct, les Spurs pourraient viser le play-in dès l'année prochaine ? Exemple, imaginons l'arrivée d'un DeJounte Murray ou d'un Risaché.
Je dirais que c'est pas fou, mais je pense que ce sera pas encore l'objectif en fait. Que ça sera l'objectif, ça sera de faire mieux. C'est quand même une équipe qui a gagné 18 matchs. Elle va peut-être finir à 20 victoires cette saison. Ce serait la pire saison de l'histoire des Spurs. Le play-in aujourd'hui à l'Ouest, c'est 45 presque victoires parce que les Warriors sont à 42 et il leur reste 6 matchs. Donc, on va dire que c'est 45 victoires. Il faudrait une progression de plus 25. Je ne suis pas sûr que plus 25, ça se fasse sur un an. Je pense que les Spurs ne vont pas essayer de toute manière. Je pense que la vraie progression, elle se fera sur l'année 3. Le vrai moment où il y aura une volonté de gagner, ça sera sur l'année 3, de gagner des matchs, hein, de gagner plus de matchs. Mais je pense que l'an prochain, ça sera encore un peu de développement avec de la progression. Et s'il y a genre 10 victoires de plus, 10, 11 victoires de plus, ça sera considéré comme une très belle saison déjà du côté des Spurs.
Mais c'est extrêmement rare un écart s'il passe de 18 à 40. Enfin, faut voir le nombre de victoires qu'il faut pour le play-in cette année. J'ai pas le classement sous les yeux, mais en un an, je suis d'accord avec toi, ça me paraît très court, surtout à l'Ouest. Par contre, il y a des progressions qui peuvent être inspirantes. J'étais en train de regarder les saisons du Magic. Ils font 21 victoires en 2020-2021. La même chose, 22 victoires. Donc, c'est assez cata l'année suivante. Et ensuite, il y a eu la progression, 34. Et là, cette année, on voit ce que ça a donné. Donc, ils arrivent à faire des saisons où ils gagnent plus de 10 matchs de plus que la précédente. Donc, viser des paliers de 10 victoires supplémentaires, je pense que c'est raisonnable. Le play-in est pas... Ils joueraient à l'Est, je te dirais oui. À l'Ouest, je ne vois pas non plus les forces en présence bouger beaucoup, donc ça va être très très dur. Quand tu vois les Lakers et les Warriors qui galèrent, bon maintenant...
Alors qu'ils font des meilleures saisons que l'an dernier.
Ils font des meilleures saisons, qui ont des effectifs assez incroyables en comparaison de celui des Spurs. Donc c'est pas du tout impossible. On va attendre de voir comment ils vont se renforcer. Mais je pense, comme toi, qu'il faudra attendre. Dans 2 ans, par contre, ouais. Je pense que ça peut aller très vite. Hein. Orlando, comme je disais, est passé de... 14e, 15e, 13e peut-être, ils peuvent encore être 3e de l'Est. Hein. Donc le bon est gigantesque.
Les premiers playoffs ou le premier play-in, c'est l'année 3 de Wembanyama et je pense que c'est le moment où il sera cité, je parle juste de cité, hein, dans la conversation pour le MVP. Donc je ne pense pas qu'il finirait même ne serait-ce que dans le top 5, mais commencer à être cité un peu en mode ah, dès qu'il y a un gros passage de Wembanyama pendant la saison, ah bah tiens, Wembanyama 5e du classement, des MVP race, etc. Ça pour moi, c'est l'année 3. L'année 2, c'est la continuité de la progression de ce qu'on voit déjà ces derniers temps. Quoi. Ouais. Peut-être 29, 30 victoires, ce serait déjà pas mal.
Et puisqu'on 31, parle de play-off, vas-y.
Je disais 31, 32, j'ai réfléchi à voix haute en fait. Pardon.
Pas de problème, j'enchaîne avec une question de Tino qui concerne les playoffs. Tino qui nous dit « On arrive au moment des playoffs et c'est le moment où le jeu ralentit, où l'on voit vraiment qui sont les superstars de la Ligue. Mais comme vous le savez tous, tout Batman a son Robin et pour être champion, on resserre la rotation et on joue à 8. Ce qui m'amène à ma question, qui selon vous a un Big 3 sur son banc ? Et qui sera la révélation, le joueur de banc qui fera la différence ? En gros, qui a le meilleur banc ? Quelle est l'équipe qui a 3 joueurs vraiment sûrs et sûrs sur son banc qui pourra aider les 5 titulaires pour aller le plus loin possible ?
Boston, sans hésiter pour moi.
Ouais, Boston.
Pritchard, Hauser, Horford.
Ouais. Après, il faudra voir Hauser et Pritchard en playoff, ce sera... C'est la fois où ils vont avoir le plus de temps de jeu. Donc, mais oui, on l'a vu en saison régulière, ça se passe bien.
Clippers, ouais. Westbrook, Powell, Tace, Plumlee, ils en ont plein pour le coup. C'est plus qu'un big three. Clippers, ça a peut-être une des rotations les plus profondes de la ligue.
En soi, j'aime bien celle des Warriors aussi, en théorie, si tout se passe bien. Chris Paul, Gary Payton, Kevon Looney,
Kuzemski,
Moody.
Jackson Davis, Moody. Pareil, c'est une rotation très profonde. Alors, après, mais c'est là où... Ouais. Pardon, vas-y.
Non, je disais, il nous demandait un big three, du coup, genre quelqu'un qui a vraiment 3 mecs, vu que ça se joue à 8 pour lui.
Ouais, tu prends les 3 meilleurs remplaçants, quoi.
Ouais. Donc, je dirais peut-être, moi, les Warriors, comme ça. Mais j'oublie peut-être du monde. Hein.
Les Timberwolves ont aussi Kyle Anderson, Naz Reid et j'en oublie un, évidemment.
Mais Nasrid va être Alexander titulaire, Walker. Plus que 4 va parvenir tout de suite.
Il va être titulaire avec 4, va être, c'est sûr.
Je regarde équipe par équipe rapidement.
Les Cannes ont un bon banc.
Ouais.
Mais l'ironie, bah, je pense que ça joue entre Celtics, Clippers et Warriors. Mais l'ironie, c'est que c'est bien le banc, mais la profondeur, c'est pas non plus toujours ce qui te fait gagner, paradoxalement, parce qu'il faut d'abord que tu aies quand même un super 5 majeur. T'es ouais. D'abord le meilleur 5 majeur, c'est quand même mieux que d'avoir le meilleur banc. Quoi. Par exemple, les Warriors, je pense, ont la rotation la plus profonde de la ligue. Genre, il y a vraiment 12 joueurs qui peuvent jouer sans. Enfin, tu sais que t'as pas de joueur faible sur ces 11-12.
Ouais.
Par contre, ça manque d'une deuxième star. Quoi. Il manque une deuxième star. Pour
prêcher ma paroisse. Je trouve, alors je dis pas que c'est le plus gros star power, mais le Magic avec Jonathan Isaacs qui l'apporte en défense quand il entre, avec Markel Fultz qui était remplaçant là récemment, avec Cole Anthony, c'est un gros scoreur. Mo Wagner
qui score.
Il y a mon gars Joe Ingles, mais bon, ça, je le cite pour le name dropping comme ça. Voilà. Mais il y a pas mal d'équipes qui sont bien. Après, tous les remplaçants ne sont pas aussi efficaces en playoff. Hein, et il y a des équipes qui ouvrent plus largement leur banc. Orlando, en plus, ça va être une équipe qui va redécouvrir les playoffs. Beaucoup de ces joueurs-là vont les découvrir même. Bon, moi, voilà, pour répondre vraiment à la question, je dis quand même les Warriors.
Et moi, je veux dire, Clippers. Ouais.
Restons sur des thématiques de play-off. José qui nous demande en play-off quel est le plus mauvais match-up à l'Est pour les Celtics et même question à l'Ouest pour Denver.
Alors, pour les Celtics, le plus mauvais match-up. Est-ce que même il y a un mauvais match-up Je réfléchis. Qui a de quoi vraiment gêner l'attaque des Celtics. Théoriquement, je dirais les Bucks, mais...
Ouais, ça reste quand même la logique, juste sur la... Même le personnel, quoi, le talent qu'il y a.
Je suis que sur le personnel. Ouais. Je suis même pas... Après, le hit aussi peut gêner la...
Voilà. Mais... On en revient à notre discussion, il y a le podcast sur le hit et les joueurs qui, sur le profil et psychologiquement, ont ce qu'il faut pour les gêner, hein, mais... C'est pas simple. Le reste, je les vois pas vraiment inquiétés, avoir parce de quoi que... inquiéter Boston. Hein.
Par exemple, pour Philly, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, Philly, Boston peut toujours aligner un 5 qui va obliger Embiid à sortir de la raquette. Quoi. Ils peuvent jouer 5 out et t'as toujours et Embiid est plus ou moins obligé de sortir de la raquette. Et j'ai l'impression que Philly a pas assez de stoppers aussi pour gêner vraiment Boston, même si je pense que Philly est une des meilleures équipes de l'Est au complet. Du coup, je dirais Milwaukee défensivement a les armes. Tu vois, défensivement a les armes, genre pour les saouler. Mais je sais pas. Surtout en plus, Giannis il fracasserait vraiment, je pense, tout le monde un peu du côté des Celtics.
Sinon, moi je dis bien quand même Miami pour le souvenir de l'impuissance de Jrue Holiday face à Jimmy Butler, l'espace d'une série de quelques matchs, hein, mais. Sur le côté psychologique, ils sont déjà passés par là, ils peuvent les embêter parce qu'on sait ce dont ils sont capables en playoff, mais sinon ça doit être Milwaukee sur le profil. Ils ont les armes défensives, Giannis, Middleton, Brook Lopez, ils doivent être ceux qui les gênent le plus, même avec ce qu'ils peuvent proposer offensivement. En théorie, personne ne peut vraiment arrêter Giannis et tu peux que limiter Lillard aussi si c'est le Lillard qu'on connaît. Donc
et pour l'Ouest, pour Denver, je dirais Dallas, parce que Denver a, je pense, pas de quoi stopper le backcourt des Mavericks. Genre, en fait, si tu te retrouves à jouer une série offensive contre Dallas, ouais, ça devient très très compliqué. Et je suis pas sûr que les Nuggets ils aient de quoi rivaliser avec ça. Enfin, pas sûr. Si, bien sûr que je sais qu'ils ont de quoi rivaliser, mais s'il fallait vraiment déterminer un match-up. Parce que là, ça sonne comme si je disais que Dallas avait gagné cette série. C'est pas ce que je veux dire. Mais même si je pense, enfin, Dallas, mon candidat pour les finales NBA, j'aimerais beaucoup une finale Dallas-Boston. Je crois beaucoup à une finale Dallas-Boston, pour être honnête. Mais ça sonnait trop affirmatif là dans ma bouche. Mais je pense que Dallas serait un match-up potentiellement délicat pour Denver. Et mine de rien.
Minnesota.
Non. Ah, c'est... Non, c'est... non, parce que bah, Minnesota, ils ne mettent pas de points. Ils mettent
non,
pas de
points. Mais pour la taille, qu'ils peuvent proposer. Mais bon, 4 n'est pas là. Ouais.
Pour moi, les Timberwolves, il y a un problème. C'est une des pires attaques de la ligue dans le clutch time. Et ça va être, grosso modo, les playoffs, c'est du clutch time. C'est une équipe qui a du mal à mettre des points. Ça défend bien, mais je n'aurais pas mis Minnesota comme match-up. Mmh. Par contre, Minnesota est paradoxalement, je trouve, un match-up difficile pour Dallas. C'est un peu l'ironie, tu vois. C'est un peu comme Poule Renard Vipère. Il n'y a que dans le CQFR que vous entendez des métaphores de ce style. Mais tu vois, genre, je trouve que Dallas pourrait éventuellement galérer contre Minnesota, pourrait perdre contre Minnesota. J'ai l'impression que Dallas s'en sortirait mieux paradoxalement contre Denver. Mais Denver, pour moi, je ne vois pas Minnesota gêner Denver, même si je sais que ça a été un peu le cas au premier tour des derniers playoffs, etc. Surtout, je suis dans Minnesota 104. Hein. Là, je suis vraiment dans Minnesota sans Karl Anthony Towns.
Ouais, ça change beaucoup de
choses. Dans une optique sans Karl Anthony Towns. Avec 4, il y a quand même...
taille qu'il apporte.
Et puis son scoring, quoi. Parce que là, les Timberwolves sans Karl Anthony Towns, il y a grosso modo une vraie menace pour créer du jeu et créer des paniers pour lui, c'est Anthony Edwards. Et là, pour le coup, ça me semble plus facile à gérer pour la défense de Denver, qui n'est pas une excellente défense, mais qui est une défense qui a montré qu'elle était capable d'être correcte, qui va quand même vouloir s'appuyer sur son attaque. Et j'ai l'impression que l'attaque des Nuggets, genre good defense, les Timberwolves, mais better offense, tu vois, genre better offense des Nuggets. Du coup, j'aurais dit les Mavs, et je vais en dire un qui peut peut-être vous sembler bizarre, mais je pense que les Clippers, ce n'est pas un si mauvais match-up que ça contre Denver. Je ne suis même pas influencé par le fait que Los Angeles a battu Denver. Ils ont fait 2-2 cette année, d'ailleurs, les deux équipes. En fait, ce que je veux dire par là, je ne pense pas que les Clippers gagneraient cette série, mais je pense que, justement, ils ont une meilleure profondeur de banc. Ils aiment jouer sur demi-terrain. Il y aurait des trucs, tu vois, qui collent, en fait. Il faudrait juste que les Clippers physiquement tiennent le choc parce que les Nuggets pourraient les outrun, en fait. Même s'il y a Jokic, les Nuggets pourraient être... Si les Nuggets sont frais et se décident de mettre du rythme dans cette série, les Clippers galèreraient un peu. Mais si on est sur une série où ça cavale pas dans tous les sens, ça joue beaucoup sur demi-terrain. Bon, le génie de Jokic finirait sans doute par faire la diff. Hein. Mais Los Angeles pourrait poser éventuellement un peu des problèmes à Denver, je pense.
Il faut que les Clippers se débarrassent aussi du souvenir de leur défaite lors de la série. Quelle année déjà, 2020
ouais, mais ça date, c'est plutôt...
Ouais, il y a des joueurs, il y a pas mal de joueurs en commun encore. Hein.
Ouais, il reste Paul George et Kawhi Leonard, quoi.
C'est pas mal.
C'est les deux princes, c'est les deux. Et il y a Zubac, mais je trouve que Zubac n'est plus le même joueur. Je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps.
Oui,
ils n'ont plus du tout le même coach et tout. Pour moi, c'est plus la même équipe. Je sais qu'il y a la même ossature, mais c'est vraiment plus la même équipe.
Si tu veux éviter de dilapider des avances de 3-1, c'est bien de ne plus avoir le même coach qu'à l'époque, effectivement.
Mais bon, après, Denver reste quand même le favori numéro 1 à l'Ouest. Hein. Je ne mettrai pas les Clippers vainqueurs d'une série contre les Nuggets, honnêtement.
Restons à l'ouest avec une question de Michael qui nous dit « Beaucoup de médias français estiment que Rudy Gobert devrait être dans une All-NBA team cette année. Pourtant, je ne vois pas comment on peut mettre Rudy devant Jokic, Eddy ou Adebayo. Même Sabonis ou Wemby font des saisons bien plus impressionnantes pour moi que celles de Gobert. Quel est votre avis ?»
Il veut dire une All-NBA team du coup, l'une des trois.
Oui, une des trois.
Oui, c'est pas... Si lobbying il doit y avoir, ce sera pour All-Defensive team, mais ça me paraît acquis à partir du moment où il est encore favori pour être défenseur de l'année ou en tout cas dans les trois premiers, sinon c'est un scandale. Moi, je ferais pas de lobby pour qu'il soit dans. Je suis assez d'accord. Il y a des joueurs qui ont fait des saisons avec un combo attaque-défense peut-être plus impressionnante que Rudy. Voilà. Donc moi, je le mettrais pas. Si je dois faire, j'y ai pas réfléchi, hein, mais je pense pas qu'il serait dans une des trois, à mon avis.
Je pense pas non plus qu'il serait dans un de mes trois All-NBA team comme le. Comme l'a très bien dit, parce que même si tu retiens l'argument de c'est les Minnesota sont premiers à l'Ouest, dans ce cas-là, pourquoi pas Kristaps Porzingis, tant qu'on y est au poste de pivot, tu vois, il fait aussi une très bonne saison, même s'il a manqué des matchs.
Hein. Il est plus éligible, ouais.
Je crois qu'il est plus éligible. Après, Gobert, on peut dire que Gobert a plus d'impact, on peut le dire comme ça, tu vois, tu peux dire, non, mais Gobert, il a plus d'impact. Mais c'est vrai que ça reste à déterminer, mais je comprends qu'on puisse le dire. Je pense pas non plus que je mettrai dans les trois. J'ai l'impression que Sabonis, quand même, sa saison, comme. Anthony Davis, les gars qu'il a cités.
Bon, il sera pas très très loin. Hein, attention.
Il sera pas très loin. Il sera pas très loin. Je pense pas qu'il sera dans les trois, mais je pense qu'il sera.
Il aura des votes, hein, d'ailleurs, très probablement, et ce sera logique. Mais je me dis pas quoi. Il est pas dans une All-NBA team. Ce qui serait le cas s'il est pas dans le meilleur 5 défensif, pas.
Oh, mais ça serait non, mais ça c'est impossible. Je pense même que c'est le Dipoy, mais.
Allez, on continue de parler de Rudy. Question de Benjamin qui concerne l'équipe de France cette fois-ci. Dans le First Day Show, la First Team a recherché les meneurs à prendre pour l'équipe de France et NBA Extra dans son podcast s'est posé la question de savoir si associer Wembanyama et Gobert dans le 5 en FIBA était une bonne idée. J'aimerais donc avoir votre avis sur ces deux questions, avec en plus pour les meneurs, est-ce que nous avons des meneurs capables de jouer avec Victor ? Pour ma part, je pense que nous n'avons pas le choix que de démarrer avec Victor et Rudy dans le 5, mais c'est dommage de se passer de Yabusele.
Yabusele, ça va être un super joker. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que... Alors, je sais que c'est un peu injuste, ça a été un des meilleurs bleus sur les dernières compétitions, Yabusele, voire peut-être le meilleur bleu sur les deux dernières compètes. Mais quelque part, c'est logique. Enfin, Wembanyama Gobert, moi, ça me plaît, cette association. Je pense qu'elle est intéressante. Et je pense qu'en FIBA, ça peut marcher, en fait. Je sais bien que niveau spacing, on se dit, mais c'est pas le même basket. Moi je serais pas choqué par cette idée de faire jouer les deux ensemble. Vraiment, je pense qu'en plus Wembanyama, de toute façon, on a bien vu, c'est pas un joueur de post-up. Au final, il préfère. Ça veut pas dire qu'il veut toujours être au large, mais il aime bien avoir la balle face à son adversaire. Il aime bien couper. Il y a plein de trucs qui est faisable avec lui. Après, le meilleur meneur à associer avec, sans le jeu, il va être créé par Wembanyama et Fournier d'une certaine manière. Hein. C'est il y aura pas, on n'a pas un meneur génial à la passe. Moi, je serais pour. Je milite toujours pour Ntilikina. Je sais qu'il a pas beaucoup joué cette saison, mais
je sais pas dans quelle forme il sera.
Un peu le meilleur choix par défaut pour moi. Tu vois, il met des trois points, il défend.
Ouais, je pense aussi. J'aimerais bien. C'est peut-être parce que j'aimerais surtout qu'il soit là, mais je sais pas dans quel état de forme il est. Après, j'ai l'impression que normalement, si on arrive à bien, si ça s'articule bien entre Victor et Rudy, ce que j'espère. Et de toute façon, il faut le tenter dans tous les cas. Je veux dire, ce serait improbable de tels phénomènes défensifs plus l'un qui est un phénomène tout court. Globalement, tu es obligé de le tenter. Et t'imagines, tu peux sortir Yabusele.
Courage pour marquer.
Courage pour marquer. Yabusele qui sort du banc serait formidable aussi. Avoir cette option-là. Et pour la main, c'est un peu c'est l'interrogation. Hein. On sait pas du tout. J'ai quand même l'impression que normalement, n'importe quel meneur de formation est capable de savoir utiliser bêtement des joueurs comme Wembanyama et Gobert dans un registre peut-être plus simpliste, offensivement. Je pense que tout le monde doit être capable de jouer avec ces joueurs-là.
Non, mais la France risque d'être une équipe moche en attaque, entre guillemets moche, mais de toute façon, c'est une équipe qui a souvent eu son succès à travers sa défense. On a eu un phénomène Tony Parker. Alors, c'était un meneur, maintenant on a un phénomène Victor Wembanyama, mais ce n'est pas vraiment un intérieur. Si les Bleus, tu gagnes tes matchs en défense. T'imagines un 5 avec Ntilikina, Koulibaly, Fournier, Gobert, Wembanyama. Tu as 4 très, très bons défenseur dans ton 5 majeur. Et même d'un coup, le fait d'avoir Fournier qui est un peu moins bon en défense, c'est moins pénalisant en fait. De toute façon, tu vas avoir du monde à envoyer, des qualités athlétiques à envoyer. Après, oui, ça va manquer un peu de spacing. Il va falloir que Koulibaly il mette quelques shoots à 3 points. Il va falloir que Ntilikina il mette ses shoots à 3 points. Ça va pas être très beau en attaque, mais bon courage pour leur mettre des points. Moi, j'aime bien ce 5. Après, si Mike James il était naturalisé, je t'aurais dit la réponse logique, c'est Mike James, tu vois, à la main. En porteur de balle, parce que c'est pas un meneur, quoi. C'est un mec qui a la balle.
Mais du coup, s'il y a cette possibilité-là, je sais pas du tout si ça a été évoqué par First Team, j'ai pas écouté encore leur sujet sur les meneurs, mais si on n'est pas obligé de prendre un pur meneur, il faut juste quelqu'un qui a de l'expérience et de la capacité de mettre en place le jeu, je mettrais bien Nando, par exemple, tu vois, si on a juste besoin d'expérience et que derrière, on sait pas... Moi, je serais pas choqué de mettre Nando.
Si le backcourt, c'est Nando Fournier, je trouve ça léger en défense. Hein.
C'est,
même si
t'as
Gobert ou Wembanyama derrière, c'est léger quand même. J'ai l'impression que Nando... Par contre, tu vois, Nando, moi, j'adore. Un de mes joueurs préférés.
Oui.
Je pense qu'on est à autant où il sort du banc, comme Batum. En tout cas, dans ce contexte actuel. Et si sur ton banc, il y a Batum, Decolo, Yabusele, Poirier, ta rotation, elle est... Et j'oublie des mecs, tu vois. Il y a des mecs que je cite pas. Là, il y a plein de gars que je cite pas. J'ai l'impression qu'Okobo, il peut pas être titulaire. Tu vois, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Tu vois, il y a des gars, ça a pas donné. Albici, c'est un peu dur le poste de meneur. Kylian Hayes, qu'il soit dans la liste élargie, tu vois, je trouve ça normal. Faut à un moment lui laisser sa chance, mais il a fait aucune compète en bleu. Là, il a pas retrouvé de club. Pour moi, c'est un peu du fantasme de se dire qu'il sera le meneur titulaire. Je sais, il y a l'aspect jeunesse, etc. Il peut avoir sa chance, tout comme Okobo, tout comme d'autres, lors des matchs de prépa. Mais je trouve qu'au niveau du profil, moi, j'aime bien cette idée de mettre une équipe défensive. Et tu as Ntilikina, Koulibaly, Fournier qui va avoir un rôle important à jouer en attaque. Mais de toute façon, ça lui colle bien. Wembanyama, Gobert. Et voilà, et tu joues et tu mises sur le fait que tes adversaires, ils ne vont pas te mettre 60 points, en fait. Ils ne vont pas te mettre plus de 60 points.
Le truc, c'est que Ntilikina non plus, il n'a pas vraiment retrouvé de...
Ouais, je sais.
On sait pas ce que ça. Moi je rêve, moi, mon. Ouais, c'est...
Mais il a déjà fait des compètes.
Ah oui, et il a toujours été
il
bon.
Il connaît déjà le groupe. Il a.
Ouais.
Tu vois, il y a une expérience FIBA à ce niveau, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, moi, j'aimerais, si c'est dans un monde idéal, qu'il soit en pleine possession de ses moyens et qui est en confiance. Et ouais, le profil de défenseur et aussi il est capable d'être un gestionnaire tout à fait compétent. J'adorerais voir Nelly Kina titulaire. Je pense que c'est. T'as raison, la perspective d'avoir une défense aussi forte dans les compétitions internationales, j'adorerais voir ça. Je sais pas si ça se fera, malheureusement. Et moi, je sais, j'entends entendre parler de Mike James et de naturalisation. J'aimerais vraiment qu'on puisse éviter ça, hein, mais bon. On n'est pas là. C'est encore, il reste pas si longtemps que ça avant les JO, mais je sais pas à quel point c'est sérieux, crédible, s'il y a une vraie demande d'un côté ou de l'autre.
C'est pas plus un fantasme des supporters de l'équipe de France, ça. Enfin, de nous, quoi, de nous tous. J'ai pas l'impression, parce que sinon, on sort. Enfin, tu vois, c'est pas le genre de truc qui se fait à la dernière minute, si. Peut-être que je me gourre, mais je pense que si c'était dans les tuyaux, on en entendrait déjà parler, tu vois. Embiid, on en entend. D'ailleurs, au passage, je reviens sur la raquette Wembanyama-Gobert. Collet, il y a un article de The Athletic où ils expliquent un peu les coulisses de tout ce qui s'est passé autour d'Embiid et de l'acte manqué avec l'équipe de France. Apparemment, il aurait quand même promis plusieurs fois, on a quand même dit plusieurs fois qu'il viendrait. Collet, il avait expliqué qu'il allait faire jouer les trois ensemble, hein. Là, dans son 5, il allait avoir Wembanyama, Embiid, Gobert.
Victor en
3. C'est Victor en 3 et ouais. Embiid en 4. Et donc, s'il était prêt à jouer avec ces 3-là, t'inquiète pas qu'il n'y aura aucun problème pour faire, enfin, dans son esprit pour faire jouer Wembanyama et Gobert. Et...
Ça aurait été marrant quand même, juste pour l'expérience visuelle.
Ouais.
Allez, on enregistre ce podcast, on l'enregistre le vendredi, donc avant les demi-finales NCAA qui vont se jouer ce soir du Final Four, enfin le premier tour du Final Four. Mais j'ai deux questions qui concernent Caitlin Clark. Je vais commencer par celle d'Erwan qui nous dit donc trois matchs du Elite 8 NCAW ont fait 2 millions de téléspectateurs aux US, le Sweet 16 Colorado-Iowa 5 millions et LSU-Iowa 12,5 millions, plus forte audience pour un match de basket sur ESPN depuis les playoffs NBA de 2018. Face au phénomène Caitlin Clark, qui va bien au-delà de la sphère basket, quelle est la proposition la plus ridicule parmi les deux qui viennent? Les 5 millions de Ice Cube pour la faire jouer dans sa Big 3 League contre des hommes de 2m10 et 120 kg de muscles, ou son futur contrat WNBA de 300 000 $ sur 4 ans alors que ses sponsors lui donnent des millions et qu'elle sera la joueuse la plus connue de la ligue auprès du grand public?
Bah, le truc d'Ice Cube, c'était du pipeau, enfin pas du pipeau, peut-être qu'il a vraiment voulu. Moi, je pense qu'il a voulu relancer un peu sa marque, parce que tout le monde a oublié la Big Three League. Il y a eu un petit buzz au début, parce que le concept était intéressant, mais ça a totalement quasiment disparu. Personne n'est foutu de dire qui joue et qui a gagné récemment ou quoi. Et si encore Ice Cube avait été historiquement un acteur du basket féminin, un mec qui s'intéressait au basket des filles, mais il a, à ma connaissance, il a proposé à aucune autre fille ces dernières années. Caitlin Clark n'est pas tout seul, c'est un vrai phénomène, t'as raison, notre auditeur a raison de souligner les audiences exceptionnelles, elle est à l'origine, en relais de certaines autres filles, des énormes audiences, mais il aurait très bien pu demander à d'autres filles en même temps de jouer, enfin, ce n'est pas la seule phénomène universitaire, donc ouais, moi c'était ridicule de lui proposer ça, et elle a clairement balayé le truc d'un revers de la main, elle n'a aucune envie d'y aller. La mettre sur des trucs de compétition avec des gars, alors même si c'est des vétérans, ça n'a pas un grand intérêt. Moi, je ne suis pas trop pour le mélange, je ne m'intéresse pas spécialement. Je veux la voir être peut-être la meilleure joueuse du monde un jour chez les filles. J'en ai rien à secouer de savoir si elle tient la distance contre des gars. Et ouais, je trouve ça ridicule. Et ça, pour moi, il a voulu se faire de la pub, là-dessus, tout simplement. Et le salaire, bah, je suis. Évidemment que je milite pour des salaires plus élevés. Pour une meilleure équité salariale, un meilleur pourcentage des revenus pour les filles, mais je ne me fais pas de soucis pour elle avec le sponsoring qu'elle va avoir, ça va le faire. Et si toutefois ce n'est pas assez, elle fera soit une saison, l'autre partie de saison à l'étranger dans un club turc qui lui donnera 1 million de bonus, soit elle ira dans une des ligues qui sont en train de se monter aux États-Unis pour permettre aux filles de ne pas avoir à partir. Donc oui, moi je veux globalement les filles gagnent plus, mais je me fais aucun souci pour Caitlin Clark avec les accords de sponsors qu'elle a déjà avec les Niles là et qui vont se projeter après chez les pros, y a pas de problème.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur Ice Cube. Je pense que c'est juste sa ligue est en train de mourir et il y a une volonté de d'essayer de la relancer, de se faire de la pub.
Il y, Il y avait zéro chance que ça marche. Hein. Il y avait zéro chance que ça marche.
C'est pour ça qu'il aurait bien pu dire je lui donne 90 millions.
Et il a été dire quoi
c'est, c'est pas venu de son camp. Pour info, c'est quand même. C'est pas venu de la Big Three League, l'information concernant les 5 millions de dollars. Il a expliqué par la suite qu'il avait fait une proposition, mais que le chiffre qui était sorti, tout ça, ça venait pas d'eux.
Okay. Mais parce que moi, ce qui m'a un peu agacé, c'est qu'après, il a dit « Oui, mais vous savez, je suis historiquement un grand défenseur du basket féminin. » Alors bon, il s'est appuyé sur un truc, c'est qu'il a laissé coacher. Ils ont mis en place, il y avait Nancy Lieberman, qui était une ancienne joueuse de WNBA. Donc, elle a été coach d'une des équipes. Bon, super. Et il a dit « Vous voyez, regardez, je suis pionnier là-dedans. Bon, ça va. »
Faut pas trop réécouter les albums d'Ice Cube ou de NWA pour le côté émancipation des femmes. C'est plus dur d'ailleurs d'être crédible. Allez, j'enchaîne avec une autre question qui concerne Caitlin Clark, envoyée par José, qui nous dit « Les Taurasi, Leslie ou Lauren Jackson sont d'immenses joueuses WNBA, mais mondialement, elles ne sont connues que par les fans de basket féminin ou par les puristes. Avec l'arrivée de Caitlin Clark, assiste-t-on à la première femme capable d'atteindre la même reconnaissance que des joueurs NBA ?»
En fait, tout dépend. Même mettre sur un pied d'égalité, c'est compliqué, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène médiatique. Je ne parle même pas du terrain, là, mais juste sur l'aspect médiatique, c'est un phénomène médiatique. Quand tu vois, c'est lié à son jeu, évidemment, mais quand tu vois Luka Doncic qui la considère comme le Stephen Curry des femmes, quand tu vois Shaq qui dit « Moi, je ne regarde même pas le tournoi des mecs cette année, je ne connais personne. Par contre, chez les filles, je ne connais aucun des joueurs chez les mecs. » Alors après, c'est Shaq, tu vois, il le dit à sa manière, mais chez les filles, voilà, il y a Sefe Dobed, il y avait Juju Watkins, il y a Angel Reese, il y a Caitlin Clark, Paige Buckers, etc. Voilà, c'est un phénomène médiatique, cette nana. Elle commence à être connue mondialement. Shai, tu me diras pas le contraire. Si je dis pas de bêtises, il y a des médias qui te contactent pour parler d'elle. Tu vois, il y a un truc qui se crée. Des médias, je parle même pas de médias basket. Donc, il y a forcément un truc qui se crée et qui s'est jamais vu chez une femme.
Voilà, mais pour la notoriété égale à celle d'un joueur NBA, si tu veux, en fait, moi, j'accueille tout ce phénomène-là avec beaucoup de prudence parce que je veux dire, ça part de tellement loin en termes de médiatisation, de respect, même juste de respect hein, pour le basket féminin. Que là, tout de suite, propulser quelqu'un en notoriété comme ça. Alors, je suis très content de voir Shaq et compagnie dire qu'ils regardent les matchs, qu'ils préfèrent même regarder les matchs des filles, notamment parce qu'il y a Caitlin Clark, même si elle n'est pas toute seule. Je suis très content pour ça. Je ne sais pas si, en termes de notoriété, est-ce qu'ils vont maintenant se mettre à la regarder en WNBA, parce que c'est le prochain rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle sera en WNBA. Est-ce qu'ils vont suivre cette hype-là? Je ne sais pas, j'en suis pas certain. Moi, mon envie, c'est que le plus de gens possible regardent la Ligue en général et pas juste les matchs de Caitlin Clark. Tu vois. C'est ça que... Donc, je ne pense pas qu'elle aura la même notoriété. Par contre, elle peut... en tout cas, sur le territoire américain... Alors, au niveau mondial, c'est un peu différent. Sur le territoire américain, c'est très possible parce que là, ce qu'elle a déclenché, le combo popularité du basket universitaire, qui est déjà une réalité depuis longtemps, hein, même chez les filles, plus son style et tout, là, ouais, elle a déclenché quelque chose... Elle est plus connue que les stars universitaires des mecs, déjà. Ça, c'est un exploit, déjà. Chez les pros, j'ai plus de doutes sur le... J'attends de voir si c'est pas un... Si les gens ne disent pas, ouais, là, je suis là maintenant, mais après, bon, tu vois. C'est un peu mon doute. Et quand même, je tiens à dire que Diana Taurasi, Candace Parker, je pense que tout le monde les connaît, même sans regarder les matchs. Elles ont une notoriété égale quasiment à la plupart des gros joueurs NBA. Et tous les gens qui suivent le basket connaissent au moins ces deux noms. À Taurasi et Candace Parker, quand même. Sans être capable de dire, elles ont fait ça, ça, ça.
Je suis vraiment pas si sûr. Ouais. Très sincèrement, je suis vraiment pas si sûr. Quand tu dis tous ceux qui regardent le basket, je suis pas si sûr. Bah, si tu demandes quand même un public large, la NBA, je suis pas sûr que. Je pense que dans le public NBA, vraiment pas sûr que tout le monde connaisse Taurasi ou Candace Parker.
Bah, je pense que si tu demandes un nom ou un ou deux noms de joueuses de joueuse professionnelles,
Brittney 90%. Griner, elle va sortir. C'est Brittney Griner qui va sortir pour. Je ne suis pas sûr que Taurasi ou Candace Parker soient si connues. Bien sûr que... En fait, ça dépend qui tu considères comme public basket. Mais public basket, non. Je ne suis pas sûr que Taurasi et des mecs qui suivent un peu la NBA, qui savent ce qui s'y passe, qui ne sont pas non plus hardcore de NBA, mais qui suivent la NBA, ils ne savent pas forcément qui est Taurasi.
Je pense qu'ils connaissent leur nom. Ils sont capables de les visualiser parce qu'ils ont vu des choses sur elles. Mais ils sont certainement incapables de dire... où elles jouent, ce qu'elles font, mais moi je parle juste vraiment la pure notoriété, genre tu vois juste une photo de la fille et dis ah oui c'est Taurasi, tu vois, juste ça.
Moi je pense qu'aujourd'hui Caitlin Clark c'est la nana la plus connue parmi les basketteuses globalement.
Ah ouais,
Je pense bah, qu'elle a déjà atteint ce... Je pense qu'elle a déjà atteint. Je pense qu'elle est plus connue que Thorazi. Que... Je pense que ça reste un public de niche qui... Mm. qui... Enfin, j'exagère. Non, qui connaît Thorazi, c'est peut-être pas un public de niche. Mais je pense que dans l'ensemble des mecs qui suivent la NBA, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Thorazi ou Candace Parker. Je pense que par contre, Caitlin Clark, elle, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il a atteint... ça a atteint un truc là. On a vraiment non, quand même atteint un truc.
Mais c'est, mon côté, c'est mon côté conservateur. En fait, je trouve ça aberrant que des joueuses comme ça, d'un tel niveau, d'un niveau phénoménal, je dirais, elle va se frotter. Alors, Montorazzi et Candace Parker, elles sont en fin de carrière. Mais c'est pour ça aussi que je suis très curieux et que de la voir direct contre des joueuses comme ça, de ce calibre-là. Et là, peut-être les gens ils vont se rendre compte que de la différence. Là, c'est parce que je suis un... C'est parce que je suis un tired fan de la WNBA et que je veux que les filles soient respectées et pas juste « Ah bah, il y a une universitaire qui arrive et elle va rouler sur tout le monde. Enfin, » c'est juste ça, c'est un peu de... Je suis trop prudent sans doute parce que je l'adore en plus, mais...
Non, mais je pense que c'est un peu aussi le symptôme, tu sais, de quand tu suis un truc depuis longtemps et que le machin explose. Et je souhaite que la WNBA explose. Et du coup, t'es toujours un peu là. Hey,
t'as raison.
J'étais là bien avant. Parce que c'est tout bête, mais c'est même la NBA avant Jordan. Jordan, il a fait exploser la NBA, tu sais, de manière... incroyable, et pourtant, tu as des mecs qui auraient pu te dire la même chose. Ouais, mais il y a eu d'autres stars avant Jordan, genre, tu vois. La comparaison est peut-être pas bonne, mais tout ça pour dire qu'à un moment, il y a des gens, par leur style, par leur. Ils te font passer un cap. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs absolument, même si Jordan est devenu ce qu'on peut considérer comme le meilleur joueur de tous les temps. Tu vois, je pense que Clark, il y a ce phénomène, c'est la manière dont.
Mais t'as raison, c'est comme quand.
Il est plus connu que n'importe quelle autre joueuse, même légendaire de l'histoire de la WNBA.
T'as un groupe que t'aimes bien, puis d'un coup, il devient connu et tout le monde dit voilà, puis t'es plus tout seul. Là. Théo, tu voulais dire quelque chose?
J'ai juste une petite stat qui vaut ce qu'elle vaut. Diana Taurasi, 310 000 followers sur Instagram. Caitlin Clark, 1,4
million. Ouais.
Bah, c'est question de génération, ouais.
Allez, j'ai une série de questions. Alors, c'est Mika qui a envoyé 4 questions. Je vais vous les poser à la suite, parce que je pense que c'est des questions qui peuvent se répondre assez rapidement. Alors, première question, il dit que c'est un concept inspiré de Trash Talk. Les playoffs 2024 arrivent et vous avez 3 joueurs. Luka Doncic, Jason Tatum, Shai Gilgeous-Alexander. Vous devez en mettre un dans le 5, en mettre un sur le banc, en couper un.
Dans le 5, Luka Doncic.
Attends, après, il y a Tatum et Shai.
C'est Tatum et Shai.
Après, là, les goûts, les goûts et les couleurs entrent en ligne de compte, mais...
C'est rude.
Donc, genre, un dans le 5, un remplaçant et un que tu coupes, c'est ça?
Ouais.
Oh là là, c'est horrible.
C'est dur.
J'ai pas envie de couper Shai, mais il a moins d'expérience que les autres.
Tatum,
Je pense juste à mon job, j'ai pas envie de savoir, de prendre le risque ce qui va être bon ou pas, à la limite. Et je sais que Tatum, il va pas te choquer au premier tour et Luka non plus. Ouais, je vais faire ça, c'est bête, mais je fais Luka titulaire, Tatum remplaçant et Shai.
Je pense que je vais faire comme toi. Mais c'est parce que je suis...
Ça me désole.
Instinctivement, ce qui est... Peut-être qu'on a tort, hein, mais c'est vrai qu'instinctivement, on se dit, Tatum, il a déjà joué. Donc on sait déjà, tu vois. Shai, on l'a vu que sur une série, ça date. Peut-être que dans 3 semaines, si on nous pose la question, on va dire Shai, mais je vais faire pareil.
Mmh. Allez, deuxième question qui est en 2 temps. C'est le game set des finales NBA et votre équipe perd 100 à 99. Il reste 7 secondes à jouer. Quel joueur all-time puis actuel choisissez-vous pour cette dernière possession?
All-time Michael Jordan.
Ouais, quand même, ça peut... ouais, pour mettre... Il n'y a qu'un point d'écart, après, tu peux aller chercher la faute. Okay.
Jordan.
Ouais. Oui.
On pourrait dire LeBron aussi, hein, mais... Je sais que LeBron est rarement considéré par les... Ouais, rarement considéré... Mais je vais dire Jordan, c'est
LeBron
assassin, il va pas te laisser perdre le game set, en fait, c'est pas possible.
Ouais, voilà.
Comme lui, il peut pas l'intégrer dans son cerveau, ça n'arrivera pas, tu vois, c'est pas possible. Quitte à ce qu'il frappe de toutes ses forces un mec juste après avoir raté le tir, au point de créer une bagarre générale qui arrête le match, tout ce que tu veux, mais il va pas... Enfin, il va... Ça, c'est pas possible, j'arrive pas à imaginer qu'il...
Je pense si c'était Jordan, tu serais pas au game set.
Je serais pas au game set aussi.
Ouais, c'est ça. Un joueur actuel. LeBron est encore en activité. Et le LeBron deuxième partie de carrière pour aller chercher une faute ou sur un drive, un truc, quand même, je pense.
Moi, j'hésite entre Jokic, Doncic et Curry. Un des trois. N'importe lequel des trois, ça me va. Peut-être plus entre Jokic et Doncic que Curry. J'ai l'impression que Curry peut être un peu plus muselé physiquement, tu vois, selon le défenseur. Donc Curry, il va devoir un peu plus se reposer sur son tir extérieur, même s'il est capable de driver. Mais là, vraiment, sur la dernière possession, je pense qu'il serait un peu plus obligé de prendre le tir de loin. Donc j'irais Doncic ou Jokic. Je me dis qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, Doncic ou Jokic, ils trouveront un tir que eux considéreront bon, tu vois. Genre ils diront, ah, mais ça c'est un bon tir pour moi, ça. Tu vois, peut-être il y aura quatre mecs au-dessus d'eux, mais tu vois, il y aura ce truc. Donc un de ces deux-là, je pense, de toute façon, c'est les deux meilleurs joueurs du monde pour moi. Donc
S'il y a deux ou trois points d'écart, je fais peut-être pas le même choix et je mets peut-être Curry. Mais
s'ils font un tir extérieur, je pense que je mets Curry ou Doncic. Plutôt oui. Curry peut-être, mais ou Kevin Durant. Mais je le trouve un peu moins tranchant physiquement. Tu vois, il y a peut-être ce côté-là.
Il a des trop grands pieds aussi, donc faut pas qu'il y ait trois points d'écart, sinon ça.
Troisième question, quel est selon vous le plafond des Lakers cette année ? Premier tour des playoffs, demi-finale de conf, finale de conf ou finale NBA ?
Le plafond ?
Bon, j'exclus pas avec ce qu'ils ont fait l'année dernière. J'exclus pas finale de conf, j'y crois pas spécialement, mais ça peut être un plafond raisonnable. Enfin, juste
gagner
par simple,
deux séries.
Ça va être super dur, mais c'est pas inconcevable. Tu vois, il y a des équipes, je peux pas les imaginer en finale de conférence. Les Lakers, je les imaginais pas du tout en finale de conférence l'année dernière et ils ont réussi à y aller. Donc, ils ont toujours Anthony, et ils ont Anthony Davis qui est en pleine forme. Donc,
En fait, tout dépend de ce qu'on appelle plafond. Parce qu'en fait, si dans ma définition de plafond, ça reste un plafond à peu près réaliste, parce que moi aussi, je peux dire, je peux me dire les Lakers peuvent aller en finale de conférence. Je trouve que l'an dernier, il y a des trucs, des fois, c'est des exceptions. Tu vois, ça reflète pas vraiment le niveau complet de ton équipe. Si on est sur un plafond réaliste, je pense que les Lakers, ils peuvent gagner, selon moi, ça reste que mon avis, les Lakers, ils peuvent gagner une série. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent en gagner deux avec leur défense, rotation, etc. Plein de choses comme ça, tu vois. Je me dis, gagner deux séries, ça relèverait de trucs de l'an dernier, tu vois, un parcours particulier. Non, ce n'est vraiment pas pour leur enlever quelque chose à leur parcours. Hein. Ils ont détruit les Warriors au second tour. Ils avaient joué les Grizzlies, que j'étais sûr de voir se planter au passage. Il y a un truc, tu vois. Ça reste les Lakers aujourd'hui, une équipe qui est 9e, tu vois. À un moment, une équipe qui est 9e de sa conférence, elle va rarement en finale de conférence. C'est ça que je parlais de plafond réaliste, tu vois. Une équipe 9e, déjà, il faut qu'ils passent par le play-in, les Lakers. Hein.
Deuxième
tour, c'est leur plafond pour moi.
C'est comme Miami, c'est-à-dire que. Là, quand tu vois comment s'est déroulée la saison et tout, et les équipes qui vont encore devoir traverser, tu dis c'est plus probable qu'ils n'y aillent pas que. Mais vu qu'on les a vus faire, tu vois, et dans un passé très récent, c'est pour ça que je leur accorde je me dis que le plafond, voilà, final, c'est pas. Je miserai pas spécialement dessus, mais ça me paraît pas fou. Alors que final NBA, là, à la fois pour Miami et pour les Lakers, je vois au moins une équipe que je les imagine pas battre du tout. Voilà, c'est pour ça que je les mets là au plafond.
Dernière question rapide de Lucas. Votre vie est en jeu et vous devez miser sur quelle franchise ira le plus loin en playoff entre les Lakers, les Clippers et les Mavericks. À qui faites-vous confiance ?
Très dur sur Mavs-Clippers, mais je dirais Mavs. Mais c'est le problème, c'est que c'est le duel du premier tour. Donc bon.
Oh là là.
Ce serait des deux qui sortiraient direct, mais je dirais Mavericks, moi.
Ouais, sur la dynamique actuelle, ouais. Mais là, c'est sortir du premier tour, c'est ça ?
Non, qui irait le plus loin.
Laquelle ira le plus loin ?
Je vais dire les Lakers, je crois. Je sais, c'est bizarre, hein, mais je me dis, il y a encore LeBron et Anthony Davis. Les autres, il y a des trucs qui me font hésiter, soit les Clippers ou les Mavs.
Tu penses que les Lakers 9e, ils ont plus de chances d'aller loin que les Mavericks ou les Clippers ?
Ils m'inspirent un tout petit peu plus confiance. Là, on parle d'un truc genre question de vie ou de mort, tu vois. J'ai l'impression, je me dis, bon, allez, LeBron, tu vois.
Toi, t'as pas envie de te faire embrouiller dans les commentaires. Toi, t'as pas envie de te faire embrouiller.
J'ai même pas pensé à ça, parce que si tu me demandes de faire des pronostics réalistes, voilà, mais
je vais donner une stat. Les Lakers, ils ont le 19e net rating de la ligue. Je sais que c'est une stat, hein, mais tu vois, c'est quand même un truc. Équipes sur une saison régulière longue. Je sais, c'est long la saison régulière. Mais normalement, tu vois, t'es une bonne équipe. En fait, on te retrouve parmi les 10 meilleurs net rating. Tu vois, c'est un truc qu'on peut là, si vous voulez, on s'amuse. Je prends toutes les saisons, les 15 dernières, on regarde à chaque fois. Et je sais pas, 12 fois, les équipes qui sont allées ne serait-ce qu'au deuxième tour, tu vois, elles sont classées dans ce top 10 des net rating. Les Lakers, ils ont le 19e de la ligue.
Je sais. Je dis pas que j'ai une grande confiance en eux, mais là, vraiment, je regarde les trois. Et alors, je suis peut-être biaisé pour Dallas parce que j'ai envie, enfin, pas j'ai envie, mais je me suis tellement mouillé en début de saison en disant que j'y croyais pas, que là, maintenant qu'ils sont très très bons et très convaincants, voilà. Mais je sais pas, un truc, Davis, LeBron, c'est pas une très bonne équipe, hein, mais je sais pas, les playoffs, c'est pas pareil, donc je sais pas. Je pense qu'aucune des trois ne sera championne, hein, ni même que peut-être qu'aucune des trois n'ira en finale.
Aller le plus loin. Donc c'est tout ça pour toi. Là, les Lakers qui sont 9e, qui vont devoir scolter le play-in, ils iront plus loin que Clippers et Mavericks qui sont 4e et 5e.
Peut-être, ouais.
Les Lakers qui vont jouer peut-être les Nuggets au premier tour.
Peut-être. Ouais, ça, attends, j'avais pas ce paramètre.
C'est l'équipe qui va aller plus loin, Shai. Ouais. Comment les Lakers, ils vont aller plus loin que Mavericks ou Clippers?
Bon, c'est sûr que si c'est les Nuggets au premier tour, c'est mort, mais ça peut être encore Minnesota ou OKC. Donc...
Et tu les vois battre Minnesota ou OKC sur une série?
Bah, plus que Denver, oui. Mais bon, non, je sais pas, je suis perdu. Vous m'avez perturbé. Là.
Je t'embrouille, je fais que vous êtes provoqué. Non, mais je fais essayer de te provoquer.
Non, mais si je suis froid.
C'est moi qui vais prendre les commentaires YouTube.
Si j'essaie de faire une analyse très froide, évidemment, je dirais Dallas parce qu'ils sont sur. C'est les meilleurs depuis le plus de temps, là, cette saison. Les Clippers, ils ont eu un gros trou d'air, ils sont pas encore redevenus très convaincants. Les Lakers sont bien, la dynamique est bonne, mais pour toutes les raisons que tu as évoquées.
Non, mais les Lakers sont bien, ils ont peut-être même le. C'est marrant, c'est des équipes qui ont toutes des bons duos, mais LeBron et Anthony Davis, hein, ça se tient aussi. Hein.
Ouais.
Mais je pense quand même que tu ne veux pas te faire embrouiller sur YouTube.
Même pas, j'y pensais même plus, tu vois.
Je rigole. Ce sera moi le hater. Y a pas de
voilà.
Problème.
Allez, on change complètement de sujet avec une question de Simonette. Je vous lis toute l'introduction. Voilà, il nous propose de discuter de l'héritage du Heat de 2010-2014. Mmh. Cela fait 10 ans que LeBron est parti, mettant fin aux Heatles et à la super team qu'il avait créée en rejoignant Dwayne Wade et Chris Bosh. Récemment, Paul Pierce s'est vu demander si le Heat de ces trois superstars en plein prime n'avait pas, entre guillemets, sous-performé et a répondu qu'ils auraient dû gagner au moins 3 ou 4 titres. Bon, le Pierce retraité ressemble plus à un consultant TPMP qu'à un expert basket, mais ça se tient. Au-delà du nombre de tirs gagnés, je me souviens quand même de 4 finales en 4 ans et d'une domination plutôt impressionnante sur la Ligue, avec un correct 71% de victoire en saison régulière. Pour info, j'ai adoré les voir perdre, mais c'était trop rare. Pourtant, je n'ai pas l'impression que cette équipe est souvent citée parmi les plus grandes de l'histoire de la Ligue. Alors selon vous, quel est l'héritage de cette équipe? Estimez-vous qu'elle est appréciée à sa juste valeur? Et est-ce que la durée trop courte de leur hégémonie en la matière et la manière controversée dont elle a été construite l'empêche d'être comparée aux équipes dynastiques?
Je suis en train d'imaginer Paul Pierce avec Gilles Verdez
et Valérie Bécresse. Mais non, Valérie, tu racontes.
Tu peux pas dire ça. Et en même temps, il essaie de la pécho, tu sais. Non, ouais. Paul Pierce, quoi. Bref, merci Simonette pour cette image mentale. Ouais, il faut se rendre compte, ils sont allés 4 fois de suite en finale, quand même. Ils sont les 4 fois de suite en finale. Les équipes contre lesquelles ils ont perdu, bon, alors Dallas, on va dire que c'était la première année de la formation de cette équipe. Il y a eu des difficultés en cours de saison. C'était compliqué. Et après, ils ont quand même battu les Spurs. Ça, c'est aussi une des équipes les plus marquantes des dernières années. Ces Spurs-là en back-to-back, je ne pense pas qu'ils aient vraiment sous-performé. Et j'ai plutôt tendance... Moi, je suis comme lui, c'est-à-dire que j'ai adoré les voir perdre la première année parce que j'adorais l'histoire de Dallas et que j'aime pas les super teams, déjà. Mais par contre, j'ai l'impression que ça a été assez rare et qu'il a vraiment fallu y aller fort pour les battre. Et je pense que c'est peut-être une équipe qui est un peu sous-estimée dans les meilleurs. Je sais pas où est-ce qu'on les mettrait dans les meilleurs, mais il y a eu un impact culturel déjà sur la façon dont elle s'est formée, les joueurs qui l'ont composée. Le style de jeu aussi, quand même, était pas banal. Il y a plein de choses qui...
Ils ont mis le small ball à la mode. Hein.
Bah ouais. Donc, je suis pas du tout d'accord avec Paul Pierce. Dans ce cas, c'est Celtics. Ils auraient dû en gagner combien? Alors, des bagues... ils avaient un Big Three, une équipe solide autour. Faut lui demander à lui aussi.
Kendrick Perkins s'était blessé en playoff. Ça compte pas.
Ouais, c'est vrai, ils n'ont jamais perdu une série au complet. Voilà. Doc Rivers te le dira.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je pense aussi qu'ils sont... pas apprécié à leur juste valeur dans l'histoire, mais je pense que c'est Simonette qui a posé la question.
Ouais.
A donné les éléments, c'est que un, court, et deux, la manière dont c'est formé, en fait. Et il y a toujours ce truc, et c'est exactement ce que disait Paul Pierce au moment où il a fait son truc, c'est qu'il a dit, ouais, ils sont arrivés en mode pas un, pas deux,
not one, not two,
pas quatre. Ouais. En fait, le hit aurait pu durer plus longtemps, aurait resté plus longtemps au sommet. Ce qui se passe en 2014, c'est que leurs role-players sont vieux. Il y avait besoin d'un renouvellement, ils avaient besoin de 109, ça c'est vrai. Mais ça aurait pu continuer si LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh, ils avaient continué ensemble. C'est juste que LeBron, il s'est barré, quoi. Mais si LeBron, il se barre pas, cette équipe, elle peut retourner en finale dès l'année d'après et peut-être même encore l'année après. Et on aurait pu avoir des finales incroyables avec les Warriors, au passage.
Ouais.
J'imagine une finale 2015, les Warriors contre le Heat.
Et imagine Chris Bosh n'a pas son problème de santé.
Alors attends, pardon, j'ai perdu la connexion, donc tu me dis imagine.
imagine si Chris Bosh n'a pas son problème de santé et que LeBron reste. T'as Chris Bosh qui est adapté au style de jeu, qui on est pile à la frontière entre le passage d'un jeu plus stretch où c'est un joueur ultime de ce type.
Et
de
il basket. Contribue à faire ce passage.
Il contribue à faire, t'as totalement raison, mais il y aurait été encore, je pense qu'il aurait pu avoir joué très longtemps et être très efficace longtemps. LeBron, bah on voit qu'il est encore très fort aujourd'hui. D-Wade, les genoux commençaient déjà à grincer.
Jusqu'en 2019, ils peuvent être genre 4-5 ans de plus, en fait. Voilà. Peut-être pas à chaque fois en finale, mais il reste.
Et tu peux aussi compter sur Pat Riley pour essayer de ramener des joueurs qui correspondent bien à l'équipe. Spoelstra est devenu plus petit à petit un encore meilleur coach. C'est une équipe qui aurait pu être totalement dynastique.
Par contre, ça, clairement. C'est, voilà. Ils auraient peut-être pas tout gagné. Ils auraient peut-être perdu d'autres finales. Peut-être des fois, ils ne seraient pas allés en finale, mais je pense qu'ils auraient gagné d'autres titres. En fait, c'est simple. LeBron, c'est quoi c'est dur de dire c'est la meilleure période de sa carrière. Parce qu'il y en a eu tellement, tu vois. Genre, au final, est-ce que sa meilleure période, c'est 2016
individuellement,
est-ce que
c'est... quand même.
Mais le LeBron de 2013,
c'était violent.
C'est vraiment quelque chose de... On est sur du phénoménal. Et à côté, donc, tu as un mec qui, à son pic, est peut-être le joueur le plus fort de l'histoire. Vous notez que je n'ai pas dit plus grand ou le meilleur de tous les temps. J'ai dit le plus fort. J'ai traité un peu différemment, ou en tout cas, pas loin d'être le plus fort. Vraiment pas loin, on va dire, et dans la discussion avec les trois plus forts sur cette année-là. À côté de ça, t'as un mec qui est peut-être le plus fort, un des plus forts, parce qu'il y a quand même Jordan sur le même poste, mais un des plus forts de l'histoire sur sa position. Et à côté de ça, t'as une star qui, je pense, est peut-être la meilleure troisième option de l'histoire, ou en tout cas dans la discussion, encore une fois, dans l'intégration du rôle de ce que ça représente troisième option. Et tu mets ces trois-là ensemble, en fait, il fallait juste renouveler le supporting cast, c'est tout. Parce que les Mike Miller, les Ray Allen, les mecs comme ça, ils étaient cramés, tu vois. Mais bon, les Browns, ils voulaient rentrer à Cleveland. Quoi. Il y avait une narration à aller chercher. Ils ne pouvaient pas continuer à créer une dynastie avec une équipe qu'ils avaient formée comme ça, tu vois. Il y a du cerveau, il y a du marketing derrière. Bah non, et puis il y avait l'envie de retourner à la maison, former un Big Three plus jeune avec Kyrie Irving et Kevin Love. Tu vois, mais ils avaient la place pour dominer plus longtemps, je pense.
Allez, j'enchaîne avec un autre sujet complètement différent, envoyé par Pierrick, un sujet qui m'a bien plu. Voilà ce que nous dit Pierrick. À l'aube de playoffs qui s'annoncent croustillants, on peut voir que pas mal de jeunes hommes de la draft 2018 ont pris les rênes de certaines franchises. Je me demande à quoi pourrait ressembler cette future joute de playoffs si les joueurs étaient draftés aujourd'hui avec leur niveau actuel. Je vous propose donc de faire une belle redraft du top 5 ou 10 de cette classe qui est déjà légendaire. Et alors, il a joint une petite liste de joueurs. Je les cite pour les auditeurs, Chai et Antoine. Normalement, vous avez les joueurs sous les yeux, mais donc c'est la draft où il y a Trae Young, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Luka Doncic, Mikal Bridges, Miles Bridges, Bruce Brown Jr., Jalen Brunson, Wendell Carter Jr., Dante DiVincenzo, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Huerter, Jaren Jackson Jr., D'Anthony Melton, Michael Porter Jr., Mitchell Robinson, Colin Sexton, Anthony Simons, Jared Vanderbilt, Robert Williams, pour ne citer que cela. Donc une draft on ne peut plus solide. Allez, je vous propose donc qu'on fasse je vous propose de faire un petit redraft. À tour de rôle, vous choisissez un joueur. On fait quoi ? On fait le top 15 peut-être ? On peut faire au moins quasiment la loterie ?
Oui, si tu veux, ouais.
On peut faire ça. Donc, je vous donnerai au fur et à mesure. Pierrick, lui, il avait fait son top 10. Il avait fait ça sur les 10 D'accord. premiers. Donc, je vous donnerai ses choix. Mais je pense qu'on peut aller jusqu'au 15. Ça peut être sympa.
Ok.
Allez. Allez, à qui je donne le premier pic là ? De toute façon, le premier pic, il est pas compliqué. Hein. Allez, je te le donne à toi, Antoine. Premier pic.
Comment Doncic ?
T'es sûr ? Hein ? Il y a pas Vlade Divac qui te parle dans l'oreillette pour dire non, pas Doncic.
Les Suns passent un peu. Tu vois, ils se font pas, ils se mangent pas un gros retour de bâton pour pas avoir pris Luka Doncic quand même. Alors qu'ils avaient le coach slovène, j'ai oublié son nom.
Kokoskov, mais lui, il le voulait à mort. Hein. Ah, il avait coaché, c'est pas lui qui a choisi.
Ça pour aller prendre un mec d'Arizona, star local. Mais bon.
Donc Shai, ouais. Donc tu draftes donc à la place des Sacramento Kings qui avait le deuxième pick.
Quel privilège. Avec le deuxième pick, on est en 2024, je vais prendre Shai Gilgeous-Alexander.
Ça me semble juste, pour l'instant vous êtes sur les mêmes bases que, ouais, que
le,
Pierre.
Le 3 est très dur, le 3
à partir de là que c'est dur.
Le 3 est beaucoup plus dur qu'il y paraît.
Donc c'est les Atlanta Hawks pour rappel.
Ah bon bah.
bah oui, mais tu vois c'est simple, en fait il y a Brunson et il y a Trae Young. Aujourd'hui, si tu dis Trae Young, tu passes pour un fou. Mais moi, je suis tenté de prendre Trae Young, mais... En fait, Brunson, il y a tellement plus de caractère, tu vois. Il y a... Allez, je vais prendre Brunson. Je m'incline parce que j'ai peur du retour de bâton. Mais mais il y a une partie de moi qui me dit que c'est Trae Young qui devrait être pris en 3.
C'est ce que j'ai fait, Pierrick. Aussi.
Eh bah, Pierrick, je te salue, je te respecte, tu as eu plus de courage que moi. Je pense que Trae Young aurait mérité de prendre en 3, mais j'ai pris Jalen Brunson.
Donc Shai, pour les Memphis Grizzlies, quel est ton choix?
Je vais prendre Trae Young, je pense quand même. Enfin, je peux hésiter avec Jaren Jackson Jr. par exemple, qui a montré de bonnes choses, mais Trae Young quand même, c'est un joueur où je l'apprécie pas plus que ça, mais c'est des joueurs qui en deviennent sous-côté. Je me demande aussi ce qu'il vaut peut-être dans un autre contexte qu'Atlanta avec d'autres voilà, mais je prends Trae Young quand même.
Pierrick lui avait pris Jalen Brunson pour le pick de Memphis. Ce qui nous mène donc au cinquième pick, celui de Dallas. Antoine,
j'ai envie d'être un haters. J'ai envie de prendre c'est dur, j'hésite entre trois mecs. Donc, il y en a un seul qui est All-Star dans le lot.
T'hésites entre Bridges, Porter Jr.
J'hésite entre Bridges, Porter Jr. et Jackson Jr.
Ouais.
Et je vais prendre... Ah, c'est tellement des profils différents. Parce qu'en fait, c'est ça l'ironie. C'est qu'il faut qu'on précise la redraft. C'est qu'en fait, quand tu draftes, je pense qu'à partir d'un certain stade, par contre, au-delà du troisième pick, tu peux drafter à peu près en fonction de tes besoins, tu vois.
Ouais. Là, c'est sur le talent, quoi. C'est sur le talent des joueurs. On ne prend pas effectivement vraiment en compte.
On prend pas trop le contexte.
Allez, je prends Jaren Jackson Jr. alors.
Ok.
C'est ce qu'avait fait aussi. C'est ce qu'avait fait aussi Pierrick. Et donc, je précise quand même que c'est beau parce que les Mavericks, ils sont passés de pouvoir avoir Jaren Jackson Jr. dans une redraft et en réalité, ils ont chopé Luka Doncic. C'est quand même la bascule, elle est folle, quoi.
En ayant eu le courage de faire le trade, de proposer, enfin le courage, la bonne idée d'essayer de faire le trade avec Atlanta, quoi.
Ouais.
Donc on en est
Orlando
au pic,
ensuite.
Ah, là,
Orlando.
Bah, du coup, je reprendrai pas Mobamba. Je l'aime bien, il est gentil, mais sur le talent, je prends Michael Porter Jr. quand même.
Donc, Pierrick lui avait pris DeAndre Ayton à ce pic-là, ce qui nous mène à celui des Chicago Bulls.
Donc si j'ai pas de Bridges, Michael Bridges est toujours disponible.
Absolument.
Bah. Michael Bridges. J'hésite avec Miles Bridges, mais Michael Bridges.
Ce qu'avait fait Pierrick aussi. Donc ensuite, Cleveland, les Cavaliers.
Il nous reste. Je réfléchis, je regarde en même temps.
Il reste Ayton, Jaren Jackson Jr. Non, Jaren Jackson Jr., tu l'as pris, Antoine ? Je me rappelle.
Ouais, je l'ai pris.
Donc il reste DeAndre Ayton, il reste, je vous dis des noms, hein, par Marvin Bagley, si ça intéresse quelqu'un.
Colin Bruce Sexton, Brandon, Wendell Carter Jr.
Dante DiVincenzo, Kevin Carter.
Après Wendell Carter Jr.
Non, Fernie Simons.
Ouais, Carter Jr. a atterri à Orlando dans tous les cas, mais bon, sur le simple talent, je vais prendre notre ami Dominaton quand même, je pense.
Ouais.
Donc pour les avec le pic des Chicago Bulls, hein, c'est bien ça.
Les Cavs en 8, ouais.
Donc ensuite, nous, c'est New York.
Il avait pris qui? Attends, juste, il avait pris qui?
Qui a pris les Cavs? Attends, je te dis ça tout de suite. Ils avaient pris Colin Sexton.
Les Cavs avaient pris Sexton, mais Pierrick avait
pris Pierrick.
Ah, pardon. Michael Porter Jr.
Ok.
Qui était toujours disponible dans sa redraft.
Ok. Donc en 9, c'est les Knicks.
En 9, c'est les Knicks.
J'hésite entre Miles Bridges et Anfernee Simons, mais sur le potentiel de star, je vais prendre Anfernee Simons pour le profil, mais Miles Bridges est peut-être plus talentueux quand même.
C'est ce qu'a fait Pierrick aussi. Ensuite, donc c'est 10e pick, les Philadelphia Sixers.
Et j'ai le droit de ne pas prendre du tout Miles Bridges ou pas? Ça se passe comment? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je réfléchis à qui reste. Il reste du Grayson. Moi, je peux aussi Anfernee Simons.
Non, je l'ai pris.
Ah, pardon.
Je viens de le prendre.
Désolé.
Justement, je t'ai
hésité avec Miles Bridges.
C'est à toi de prendre Miles Bridges.
Ah, le salaud. Ah, parce que bon, sur le talent, c'est sur le talent et qu'on sépare l'homme de l'artiste, encore une fois.
C'est sur le basket, ouais.
C'est sur le basket, Miles Bridges, allez.
Il pouvait même être pris plus haut.
Parce que oui, bien sûr. Lui aussi, avec, entre parenthèses, malgré son QI sûrement négatif. Vous voulez pousser sur les trois prochains picks pour,
C'est pas facile, hein, mais ouais, on peut le faire rapidement, si tu veux.
Comme vous voulez.
Donc ensuite, on en était donc 11. Aux Sixers, c'est ça? Donc
non,
11,
c'est,
ce sont les...
11, c'est les Hornets.
Ouais, Charlotte Hornets.
Dante DiVincenzo pour moi.
Ok. Shai, donc après,
pour
les Clippers. Clippers sont en 13. Ouais, Clippers en 13, il reste
12,
qui
12.
Ah, c'est 12, ouais.
Ouais. Ça, ils ont eu deux picks de suite. Hein.
Ah
deux
si,
picks.
Quand même, si. Je prends Mitchell Robinson.
Ah oui, ah, bien vu.
Mitchell Robinson.
Bien vu.
Le style.
Effectivement. Le style Robinson, donc moi, je suis 13, les Clippers.
Ouais.
Je prends Grayson Allen.
T'aimes bien les mecs qui mettent des croche-pattes et tout, toi, je le savais. Ouais.
14, les Nuggets, c'est fou parce que c'est là quand même qu'a été drafté Michael Porter Jr. Il avait vraiment chuté.
Ouais, il chutait de ouf.
Et donc, il reste...
C'était annoncé top 3 au début de l'année, hein, je me souviens.
Il reste Okogie, Hurter...
Il y a Moritz Wagner...
Colin Sexton, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Et Franz Wagner, il est donc... Ah oui, il est la draft d'après, il est 7e.
Plus tard, ouais.
Dernier pick... Celui donc des Wizards.
Toi, t'as pris Colin Sexton.
Mm-hmm.
Donc j'ai Robert Williams, j'ai Moritz Wagner, j'ai Kevin Werther. Ah, Robert Williams, son état de santé, il m'inspire pas là.
Bah, c'est ça.
Sur le truc, j'ai eu son. Tu vois, avant la draft, on m'a donné son. Ah, il y a Bruce Brown aussi.
Allez, je vous en donne d'autres. Il y a Bruce Brown, il y a Zanan Moussa, Eli Okobo.
Non, je prends Moritz Wagner. Moritz Wagner, allez, vas-y. Voilà, je finis ma draft avec Moritz.
Sinon, il y a Kostas Antetokounmpo pris en 60, mais bon.
Il y a Jared Vanderbilt aussi.
Ouais. Voilà.
C'est belle draft quand même. Franchement, quand tu reprends en détail, même dans le deuxième tour, il y a des joueurs plus qu'intéressants, Shake Milton et d'autres. C'est très belle draft. Très belle draft. Allez, je vous propose de finir par le quiz. Alors, c'est un quiz. Attention, hein. Ça blague plus. Un quiz envoyé par Florent, c'est un qui suis-je. D'accord. Donc il y a différents qui suis-je. Je vous donne des informations. Le premier qui trouve la bonne réponse a gagné. Ce sont voilà, il y a des joueurs. Je vais vous lire quand même ce que disait Florent en intro. Voilà, un quiz drôle et facile, peut-être pour éviter de voir ressurgir Dark Pimmel, quoique. Donc il y a 8 qui suis-je, 8 joueurs NBA actuels ou passés à trouver avec plein d'anecdotes authentiques. Bonne chance.
Ok. Allez.
Vous êtes prêts?
Ouais.
Qui suis-je? Comme mon entraîneur me reprochait de ne pas être en forme, je lui ai répondu que si, j'étais en forme de rond. Mais je ne suis pas Zion Williamson. Je suis l'un des pires défenseurs de la NBA.
Charles Barkley.
Bonne réponse.
Être encore plus mauvais sur les quiz.
Alors, je mets un point pour Shai. Hop. On enchaîne. Deuxième. Qui suis-je? Ma maman m'interdit d'avoir des posters dans ma chambre car la Bible dit qu'il ne faut idolâtrer... qu'il ne faut pas idolâtrer d'homme. Je suis déçu. Je souhaitais seulement afficher quelques posters de LeBron James. Mais quelques années plus tard, je me rattrape en remportant plusieurs titres de champion face à ce même LeBron James. Je ne suis pas Rudy Gobert et je fais ce que je veux, sauf jouer avec LeBron.
Draymond.
Bonne réponse de Shai. Il a pris une avance déterminante.
Est-ce parce que je m'entraîne avec Light Session à faire des bios comme ça, des trucs. Alors
pas du tout. Je ne suis même pas frustré parce que je ne savais pas du tout.
Je ne suis pas Rudy Gobert et je fais ce que je veux. Ouais, ça...
Allez, prochain, attention. En 2015, face aux Clippers de DeAndre Jordan, je capte 18 rebonds, mais je ne suis pas André Drummond. Lors de ce même match, je ne marque que 5 points à 1 sur 13 au tir et 0 sur 7 à 3 points, donc je ne suis pas Stephen Curry. Je n'ai jamais été champion NBA car je n'ai pas la chance d'avoir joué aux Golden State Warriors, donc je ne suis vraiment pas Stephen Curry. Mais peut-être, qui sait, cette année j'aurai enfin ma première bague et peut-être que je serai MVP des finales. et Antoine sera content.
Antoine sera content.
C'est censé être une dédicace pour moi.
Bah, Damien Lillard.
Damien Lillard, troisième bonne réponse de Shai.
Lillard, je crois que c'était un, pardon, je crois que c'était un joueur des Pistons.
Lillard, il a pris 18 rebonds contre les Clippers.
Non, 15.
Donc, ça, 15 rebonds. J'ai absolument rien fact-checké, donc s'il y a des erreurs dans ce quiz, vous voyez ça
directement. En fait, il y avait André Drummond, je crois que depuis tout à l'heure, je cherchais des joueurs des Pistons. C'est pour ça que j'ai dit,
je suis pas André Drummond. Ouais,
ouais, pardon, allez. Quel idiot.
Qui suis-je? Lors de mon année freshman, je ne mesure que 1m83 et je suis meneur, et je ne suis pas James Harden. À la fin de ma saison sophomore, je ne mesure encore que 1m93. Je suis alors connu comme le petit gars qui shoot à 3 points du corner. Davis. Bonne réponse d'Antoine Pimel. Bravo.
Bien joué.
C'est bravo. Freshman au lycée.
Ouais, c'était freshman au lycée, c'était pas spécifié.
Ouais, parce qu'à Kentucky, s'il était freshman à Kentucky...
Il faisait pas 1m83.
Ouais. Bon, j'ai sauvé l'honneur, c'est bien. Moi, j'ai eu une réponse. C'est bien.
Allez, qui suis-je? Je n'ai pas joué au basketball avant mes 17 ans, mais je veux être gardien de but et je ne joue qu'au football.
Joel Embiid.
Je ne serai...
Embiid, ouais.
Non, ouais. Mais je ne serai jamais Fabien Barthez. Lorsque je pars à la retraite 20 ans plus tard, je suis champion NBA, MVP, MVP des finales.
Hakeem Olajuwon.
Bonne réponse. Allez, tu l'as dit avant Shai, je vous l'accorde.
On peut splitter.
J'ai dit Hakeem.
T'as dit Hakeem, allez vas-y, je vous
mets un point chacun.
Qui suis-je? Je ne suis pas le joueur le plus hype de NBA, mais je peux me targuer d'être plus efficace que Kobe Bryant en carrière. Ce n'est pas tout, puisque j'ai aussi plus de points marqués par minute que Carmelo Anthony. Encore mieux, en termes de PER, Player Efficiency Rating, en carrière, seuls quelques joueurs comme Michael Jordan, LeBron James, Anthony Davis et George Mikan sont devant moi. Et je ne suis ni Shaquille O'Neal, ni David Robinson, ni Will Chamberlain. Tous derrière moi. Et pourtant...
Carl Anthony Towns.
Non. Tout non. Ça, je ne l'ai fait qu'avec un temps de jeu faible, souvent dans le garbage time. Je ne suis pas Frankenstein, mais je fais peur aux enfants. Et Houston a décidé de me cacher cette année.
Marjanovic.
Ah, Boban Marjanovic.
Bonne réponse. Joli, ce qui n'est pas aisé avec mes 2m24.
Très joli, bon. Joli.
Putain, Boban, il a un PER.
Ça, c'est bon, ça. Énorme. Allez, il en reste deux. Qui suis-je? Je suis un grand incompris. Je l'ai même tatoué sur mon corps. Si, mais je ne suis pas Kyrie Irving. Dès ma draft, Charles Barkley me qualifie de pire chose qui soit jamais arrivée à Sacramento, alors que je mesure bien 30 cm de plus qu'Azaïa Thomas. Ma prof au collège se souvient encore de mes poèmes, mais je ne suis pas un poète du basket. En tout cas, pas autant que Rashid Wallace. Seul joueur NBA à avoir été plus souvent expulsé que moi en carrière.
De Marcus Cousins.
Ah ouais. Bonne réponse d'Antoine Pimel.
Boogie. Bravo.
Pas mal, donc là on est à... Allez, dernière, tu pourras pas rattraper Shai, mais c'est pour le plaisir. Tu peux revenir à un point de Shai.
Pour le sport.
Qui suis-je? Moi aussi, je suis un grand incompris et je préfère écouter de l'opéra plutôt que de la country avant les matchs, donc je ne suis pas Jimmy Butler. Pourtant, j'ai joué avec lui, mais il est parti. Et c'est pas à cause de mes goûts musicaux, quoique, j'aurais peut-être dû le rejoindre. Jeune, j'ai avoué avoir soutenu le Miami Heat de LeBron et au début de ma carrière, on a même pu me comparer à lui. Les temps ont bien changé. Je n'aurais jamais la longévité de LeBron ni la mentalité de Jimmy. Ah, si Jimmy n'était pas parti. Ah, si je savais tirer des lancers francs. Ah,
Ben Simmons.
Ouais. Ça se terminait
pas
par
pour l'opéra.
Ah, maudit bus et ah, maudit doc, ce qui m'a beaucoup plu sur la fin de l'énumération concernant Ben Simmons. Et moi non plus, je ne savais pas pour l'opéra.
Mais ouais, parce que c'est marrant, j'ai pensé à Ben Simmons, mais le truc, je me disais non, l'opéra, c'est pas possible. Tu sais, ça avait commencé par opéra, et du coup, à chaque fois qu'il y a un indice où je me disais Ben Simmons, je me disais non, l'opéra, c'est pas possible.
Ça va pas avec le fait d'être sorti avec une Kardashian Jenner. J'ai pas réussi à mettre le
curseur, le doigt sur le truc. Ouais. Voilà, merci encore à Florent pour le quiz. Beaucoup. Merci à tous pour les questions que vous avez envoyées. Merci à tous ceux dont on n'a pas eu le temps de poser les questions cette semaine. Voilà, merci de continuer à nous suivre, d'envoyer autant de commentaires. C'est vraiment toujours aussi cool.
Yes, carrément. Vous avez l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Donc n'hésitez pas si vous voulez que votre question soit lue, entendue ou répondue aussi. Hein. C'est le principe quand même. Vous pouvez envoyer tout ça sur cette adresse. Ce week-end, il y aura le Moop Deep et le Hoop Culture. Donc, Moop Deep le samedi, Hoop Culture le dimanche. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Ciao à tous.
Ciao.